l'argesse, la gratuité et le partage, moteur d'une société à construire.
À Digne, et malgré le jour férié de l'Ascension, le public était très nombreux lors de la conférence débat autour de la gratuité donnée par Paul Ariès dans le cadre de la semaine de Cité solidaire en mai. L'eau vitale doit-elle et peut-elle être gratuite? Et la restauration scolaire, les transports urbains, les services funéraires, etc. Redécouvrir et prendre conscience des richesses populaires, inventer d'autres styles de vie, avancer vers une société de gratuité en faisant des choix. Paul Ariès est politologue, rédacteur en chef du mensuel Les Indignés, auteur d'une quarantaine d'ouvrages et délégué général de l'Observatoire international de la gratuité. Il organise de nombreux forums nationaux et internationaux. Paul Ariès défend l'idée d'une société fondée sur le partage et la gratuité du service public, mais une gratuité construite. Il répond aux questions d'Odile Frison.
Paul Ariès, vous venez de faire une conférence à Digne, la gratuité vers le service public. Est-ce que ça vous semble une utopie ?
Alors si c'est une utopie, c'est une utopie pratique, nécessaire. C'est-à-dire qu'on assiste aujourd'hui à l'échelle mondiale à un retour à l'idée de gratuité. Quand on parle de gratuité, c'est toujours une gratuité construite, économiquement construite. C'est-à-dire que l'école publique est gratuite, mais payée par nos impôts. Et c'est vrai que moi j'aime bien toutes ces villes qui, à l'échelle mondiale aujourd'hui, expérimentent de nouvelles formes de gratuité. Il y a des villes qui commencent par la gratuité de l'eau vitale, 4 litres d'eau gratuits par jour et par personne. D'autres villes, c'est la gratuité des transports en commun urbains. D'autres villes encore, c'est la gratuité des services culturels, de la restauration scolaire ou même des services funéraires. Je crois que ce qui est important quand on parle de gratuité, c'est déjà de dire que tout ne peut pas être gratuit. C'est-à-dire qu'il y a des choix à faire. Par exemple, il est évident qu'il faut rendre gratuit, je dirais, l'eau pour faire son ménage, c'est-à-dire l'eau correspondant à une consommation normale, mais qu'il faut renchérir, voire pourquoi pas parfois interdire le gaspillage, l'eau pour remplir sa piscine privée. Et puis, quand on parle également de gratuité, je crois que c'est la bonne solution aussi pour rendre gratuit des choses plus justes socialement et écologiquement. Si on veut aller vers une restauration scolaire gratuite, c'est pas pour servir la même alimentation que les géants de la restauration commerciale. C'est pour faire une alimentation relocalisée, resaisonnalisée, moins gourmande en eau, moins carnée, assurant la biodiversité. C'est pour faire une cuisine faite sur place avec des produits locaux. Ce combat pour la gratuité, c'est à la fois, je dirais, une réponse à l'urgence sociale, parce qu'il y a des gens aujourd'hui chez nous qui manquent de tout, mais c'est aussi une réponse à l'urgence écologique. C'est-à-dire, penser à la gratuité, c'est réapprendre à différencier selon les types d'usage. Et dire qu'effectivement, la consommation de l'eau, bah, tout dépend pourquoi c'est faire. Et puis c'est aussi une réponse à l'urgence politique. Moi, je suis aujourd'hui catastrophé par la montée des extrêmes droites partout à l'échelle européenne. Et je crois que poser la question de la gratuité, du service public, de l'importance des biens communs, c'est aussi reprendre l'initiative. Et de montrer que nous, on a peut-être plus à donner à rêver, plus à donner envie de changer la société que ce qui repose simplement sur un discours de haine, sur un discours de xénophobie.
Vous parlez de richesse populaire.
Alors déjà, le terme populaire est devenu difficile à utiliser. C'est-à-dire que la force du système dominant est d'avoir fait de nous des sans-nom. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on assiste effectivement à ce conflit entre les salariés du privé contre les salariés du public, ce conflit entre les salariés et les chômeurs, ce conflit entre les chômeurs bien indemnisés et ceux qui touchent que le RSA. La force du système est de faire qu'on se compare entre nous, je dirais gens ordinaires, et qu'on oublie effectivement ceux qui sont tout en haut et qui ont des rémunérations obscènes. Donc, je crois qu'il est important de dire qu'aujourd'hui, notre principale force, c'est ce qu'essayait de résumer le slogan des indignés. Nous sommes les 99% face au 1%. Et je dirais les gens ordinaires, les gens simples, les gens du commun, les milieux populaires, peu importe comment on les appelle, ne sont pas des riches auxquels il manquerait que l'argent. C'est-à-dire que ces gens-là, ils rêvent autrement. Ces gens-là, ils pensent autrement. Ces gens-là, ils vivent autrement. Rappelez-vous ce que le grand publicitaire du système, Jacques Séguéla, avait dit lorsqu'il disait « S'il y a 50 ans, on n'a pas de Rolex, c'est qu'on a raté sa vie ». Ça, c'est, je veux dire, ce sont les fantasmes des riches. Je dirais, moi, j'ai 56 ans, j'ai pas de Rolex, et j'ai pas le sentiment d'avoir loupé ma vie, parce que j'ai d'autres désirs. Mais ça, les riches, ils arrivent même pas à penser qu'on puisse avoir d'autres rêves que les leurs. Eh bien, oui, les milieux populaires, ils ont effectivement un autre rapport au temps, à l'espace, ils ont un autre rapport à la consommation, au travail, ils ont un autre rapport à la maladie, à la mort, donc à la vie. Et je crois que la force du système, c'est de rendre les milieux populaires invisibles. Eh bien, nous, notre responsabilité, c'est de rendre visible l'invisible et de prendre conscience de la richesse des milieux populaires aujourd'hui.
Vous parlez d'urgence de changer de comportement, de changer de mode de vie, de style de vie.
Bien sûr, non seulement on va dans le mur, on le sait tous, mais si on dit simplement qu'on va dans le mur, je dirais on va complètement désarmer les gens. Ce qui est important, c'est de montrer qu'il est possible de vivre mieux avec moins. Parce qu'effectivement, notre style de vie, notre mode de vie, eh bien, c'est un mode de vie qui est complètement impossible, qu'on ne peut pas généraliser à 7-8 milliards d'humains. Ce qui est essentiel, c'est déjà d'adopter ce qu'on pourrait appeler une vie simple, de revenir finalement au sens de la mesure. Et je crois que beaucoup de gens y sont prêts, à partir du moment où effectivement, déjà, on ne leur tient pas un discours culpabilisateur. Moi, rien ne m'énerve plus que ce qu'on pourrait appeler l'écologie culpabilisatrice et dénonciatrice. Salaud de pauvre qui revendiquait plus alors qu'il y a déjà le feu à la planète. Je crois que ce qui est essentiel, c'est de montrer que les gens, ils ont tout à gagner à un changement de société. Moi, je suis partisan de la réduction du temps de travail. Je suis partisan d'un revenu pour tous, même sans emploi, mais couplé à un revenu maximal autorisé. C'est-à-dire, au-delà d'un certain montant à définir démocratiquement, eh bien, on prend tout. Non seulement pour financer le revenu pour tous, mais aussi parce que, à force d'accepter qu'il y ait des gens qui deviennent tellement différents des autres, on va remettre en cause l'unité même du genre humain.